carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Annie Regon.
Bonjour, bienvenue dans ce carrefour des arts qui va être aujourd'hui consacré à Hannibal Carrache et son atelier. En effet, cette année, en 2009 donc, nous devrions commémorer le 4e centenaire de la mort de cet artiste, Hannibal Carrache, qui est un grand artiste, qui, comme tous les artistes bolognais de son temps, a eu une grande réputation en France, presque de son vivant, mais enfin en tout cas au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et même encore au XIXe comme on le verra. Et actuellement, eh bien, on peut dire que c'est un artiste qui n'est pas oublié du tout des spécialistes, mais qui n'est pas connu, pas beaucoup connu, pas suffisamment apprécié en tout cas, dans le grand public, même amateur. En effet, cette année 2009 donc, marque le 4e centenaire de sa mort, mais il va y avoir l'année prochaine le 4e centenaire de la mort d'un autre artiste, qui de son vivant déjà était le rival d'Hannibal Carrache, à savoir le Caravage. Alors le Caravage est un artiste évidemment immense, on ne va pas discuter la qualité de ses œuvres, mais il faut bien savoir que même s'il nous paraît aujourd'hui plus médiatique, il a été beaucoup plus vite oublié, voire même réprouvé, alors que les œuvres des Carrache ont été pendant très longtemps montrées comme modèles, en particulier aux jeunes artistes. Alors c'est pourquoi Canal Academy souhaite attirer l'attention de ses auditeurs sur cet artiste Hannibal Carrache et sur son atelier, pour inciter les auditeurs à redécouvrir ses œuvres qui sont très nombreuses dans les musées français, et puis pourquoi pas aussi à se rendre à Bologne et à Rome où on peut admirer un grand nombre de tableaux de ces artistes. En effet, la qualité également synonyme de quantité. Ce sont des artistes qui ont énormément travaillé. Il faut dire qu'ils étaient assez nombreux et qu'ils ont laissé un grand nombre de peintures, que ce soit peinture de chevalet ou peinture murale, et également un très très grand nombre de dessins. Il faut savoir qu'au musée du Louvre, il y a un volume entier qui est consacré uniquement aux dessins des Carrache. Un volume assez important, donc qui a été rédigé par les conservateurs du cabinet des arts graphiques, ce qui montre que, naturellement, s'il y a beaucoup de dessins, c'est qu'il y a eu beaucoup de peintures et une production de qualité. Alors l'artiste dont on devrait commémorer le souvenir, à mon avis, peut-être de manière un petit peu plus vaste, était en fait le chef d'un atelier familial, ainsi que je l'ai déjà un petit peu dit, bien qu'il n'en ait pas été l'aîné de cette famille. Très tôt, son nom a été associé à celui de son frère Agostino, qui était né en 1557, de son cousin Ludovic, qui lui était né en 59, et encore un autre frère Francesco, et puis également Antonio, qui était le fils naturel d'Agostino, plus encore quelques autres moins connus. Alors Hannibal, donc, était entouré de cette famille comptant de nombreux artistes. Pourtant, dans sa famille, dans ses ascendants, il n'y avait pas réellement d'artistes. Son père était tailleur et son oncle boucher, le père de Ludovic. Mais c'était une famille certainement assez opulente pour pouvoir offrir des études aux enfants. Et à vrai dire, pour celui qui voulait devenir peintre à Bologne, ça n'était quand même pas tellement difficile, parce que cette ville bénéficiait d'un riche passé dans le domaine de tous les arts graphiques. Moins réputée que Florence ou Venise pour l'époque médiévale, Bologne avait connu, dès l'époque de la Renaissance, une activité qui avait été remarquable, aussi bien pour les décors, peints sur les murs, donc dans les palais, dans les églises, que pour la commande individuelle de panneaux de chevalet. Donc une production qui était déjà visible, on peut dire, aussi bien dans l'espace public que chez les particuliers. Et déjà une production aussi qui avait peut-être son propre style, qui à la fin du XVIe siècle était le style maniériste, un style qui se caractérise par une sorte d'exagération, par des formes allongées, des musculatures boursouflées, et puis aussi un certain goût pour les sujets un petit peu obscurs, un petit peu difficiles à comprendre. Et assez tôt, bien que peut-être, on peut penser que peut-être Hannibal avait été placé un petit peu sous l'influence de Bartolomeo Passerotti, un artiste maniériste bolognais, il a quand même assez tôt réagi contre ce style, voulant devenir plus facilement compréhensible. Et surtout, il a voulu, tout au moins au début, trouver des sources d'inspiration plus proches du quotidien. C'est ainsi qu'on le verra, par exemple, dans la boutique du boucher ou dans le mangeur de pois. Afin de compléter sa formation, Hannibal se rendit à Florence en 1583, à Parme en 1585, alors Parme qui était aussi un lieu mythique pour la peinture puisque c'était là qu'avait travaillé le Parmesan, et le Corrège, qui était particulièrement réputé pour ses formes douces, pour ses figures féminines. Vous avez par exemple au Louvre le sommeil d'Antiope, enfin ce sont des tableaux vraiment d'une très grande valeur. Et donc il s'était rendu à Parme et puis après en compagnie de son frère Augustin à Venise en 1585 où il a été véritablement ébloui par les coloris des œuvres de Titien et de Véronèse. Et grâce à ce voyage à Venise, il a considéré différemment la couleur. Donc après ces divers voyages, l'atelier, on peut dire, des Carrache qui s'était constitué, désireux d'accroître son influence, surtout donc dans cette réaction contre l'art maniériste, a voulu créer une académie. C'est l'Académie des Acheminés, degli Incamminati, qui était à la fois une école de dessin et un lieu de discussion sur les rôles respectifs des différentes composantes de la peinture, le dessin, la lumière, la perspective, la couleur. Et parmi les adeptes de cette nouvelle forme d'enseignement, qui n'était pas totalement nouvelle en Italie, puisque déjà Vasari, au XVIe siècle, avait créé l'Académie des Médicis à Florence, enfin, parmi donc les adeptes des frères Carrache, eh bien, on rencontre de jeunes artistes comme Francesco Albani, qu'on connaîtra en français sous le nom de l'Alban, Domenico Zampieri, qu'on connaît sous le nom du Dominicain, puisqu'il était petit, donc c'était le petit Dominique, Domenichino, Lanfranco. Donc tous ces artistes qui se sont formés à l'Académie des Acheminés, degli Incamminati, seront ensuite sur le chantier du palais Farnèse à Rome, dont on reparlera plus tard. Car la carrière des Carrache ne se déroule pas entièrement à Rome, contrairement à ce que pensent certains, c'est surtout quand même au départ une carrière bolognaise qui a marqué beaucoup l'histoire de la peinture à Bologne. Par parenthèse, on peut recommander la visite de la Pinacothèque de Bologne, qui est vraiment un musée magnifique, avec beaucoup d'œuvres, évidemment, de cette époque. Et puis, surtout, vraiment une tranquillité extraordinaire. Si vous visitez ce musée, eh bien, vous ne serez pas tout à fait seul, mais vous serez à tout coup en compagnie d'amateurs, de vrais amateurs de peinture. Alors, parmi ces œuvres donc, qui ont été peintes à Bologne par l'atelier des Carrache, il y a des peintures qui sont des peintures destinées à des palais. Deux palais importants, le palais Fava en 1584 et le palais Magnani en 1588, où ils ont dû peindre des cycles décoratifs sur les murs, donc peinture murale à fresque. Au palais Fava, il s'agit de l'histoire de Jason et de la toison d'or. Et au palais Magnani, l'histoire de la fondation de Rome, l'histoire de Romulus et Rémus. Alors l'histoire de Jason est une histoire qui était à ce moment-là assez connue parce qu'en ce temps-là, tout le monde était imprégné de mythologie. Je dis par parenthèse qu'en France, elle a été peinte aussi un petit peu avant au château d'Ancy-le-Franc, que ça n'est quand même pas très très courant, donc ça mérite d'être signalé. Le château d'Ancy-le-Franc qui se trouve dans le département de l'Yonne en Bourgogne. Donc, quelques années auparavant. Pour une fois que la France a l'antériorité sur l'Italie, il faut le dire. Donc, cette histoire de Jason est racontée en plusieurs épisodes et avec beaucoup de détails réalistes. Les mêmes qualités que l'on retrouvera au Palais Magnani avec l'histoire de Romulus et Rémus, où il y a, là encore, quelques détails qui peuvent rappeler un petit peu les œuvres du début des Carrache, du début d'Hannibal. J'ai évoquer rapidement l'étal de la boucherie, qui est un tableau tout à fait surprenant, qui se trouve à Oxford, et où on voit des carcasses de viande sanguignolante qui sont juxtaposées avec des personnages, avec une vieille femme qui peut-être serait la mère de la famille Carrache, un certain nombre de personnage, dont un militaire en grande tenue de Lansquenet. Donc ce tableau de la boucherie marque un style au début de la carrière d'Hannibal. Et dans l'histoire de Romulus et Rémus, qui est une histoire tout de même grandiose, mythologique, héroïque, eh bien, il y a un attelage de bœufs qui rappelle aussi un petit peu cette veine. Ce sont les bœufs avec lesquels Romulus avait tracé le sillon de l'enclos qui devait marquer l'Ourps, enfin la ville de Rome. Et cette paire de bœufs vue de dos est tout à fait étonnante et on ne s'attend pas tellement à trouver ce genre de choses dans un grand palais. Il y a également une scène assez effrayante où on voit les Lupercales. Ce sont des prêtres qui, ce jour qui correspondrait au carnaval aujourd'hui, se répandaient dans la ville nus, en tenant des morceaux de chair fraîche et en essayant d'attraper toutes les jeunes filles qu'ils pouvaient. Ce qui, bien sûr, était assez épouvantable et a fait condamner d'ailleurs cette fête plus tard. On a considéré que c'était trop cruel et trop violent, mais les Carrages n'ont pas hésité à montrer cela. Mon Dieu merci, ils n'ont pas peint que des choses aussi cruelles, puisque à cette époque, ils ont naturellement peint de nombreux tableaux religieux, comme c'était toujours le cas à l'époque. Parmi eux, je pourrais citer un tableau qui est au Louvre, La Résurrection, qui a été commandé en 1593 à Hannibal par un marchand qui, semble-t-il, était peut-être un peu un nouveau riche. Alors, c'est une grande toile qui fait 2 mètres de haut, qui a connu diverses vicissitudes avant de se retrouver au Louvre dès le début du muséum. C'est une très belle composition qui combine les thèmes de la résurrection et de la transfiguration avec celui de l'ascension, où on voit que Hannibal est un véritable virtuose de la composition, avec un Christ extrêmement dynamique qui s'élève vers le ciel, avec des anges qui semblent sortir de la toile. Mais ce goût pour la composition d'ensemble très virtuose n'empêche pas Hannibal d'avoir le sens du détail, puisqu'il nous montre le sceau qui fermait le couvercle du tombeau fermé, se conformant ainsi aux prescriptions des théologiens de la contre-réforme qui incitaient les artistes à montrer le tombeau fermé. Et en effet, un soldat montre du doigt à un pharisien cette preuve du miracle de la résurrection. Alors peut-être que le commanditaire, qui était considéré par l'aristocratie de l'époque comme un nouveau riche, a voulu montrer qu'il connaissait les prescriptions des pères du concile. C'est du moins ce que suggère Stéphane Loire dans la notice qu'il consacre à cette œuvre dans le catalogue du musée du Louvre. Et cette interprétation est très convaincante. Donc, une carrière déjà importante à Bologne, avec de nombreuses traces, comme je l'ai déjà dit, dans les églises et dans les palais, et naturellement dans les musées. Mais le sort de la famille Carrage va changer à partir de 1595. Ils vont entrer dans une nouvelle vie à Rome. Retrouvons l'atelier des Carrages que nous avons abandonné à Bologne après déjà un début de carrière extrêmement brillant avec de très nombreuses commandes. Hannibal a donc 35 ans, il est déjà un artiste reconnu et c'est le cardinal Odoardo Farnese qui va faire appel à lui. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là à Rome, il y avait une vie artistique qui était extrêmement brillante, il y avait de nombreux architectes, de nombreux peintres, sculpteurs qui étaient présents dans la capitale de la chrétienté, qui travaillaient naturellement pour le Vatican, mais qui travaillaient aussi pour les familles des cardinaux qui se trouvaient à ce moment-là à Rome. Et il y avait naturellement d'autres artistes, et celui qui tenait le haut du pavé à ce moment-là, c'était le Cavaliere d'Arpino, un artiste qui était un petit peu sur son déclin à ce moment-là, et qui a accueilli dans son atelier à ses débuts un tout jeune artiste qui arrivait du Nord, qui arrivait de la région de Milan, et qui était promis un grand avenir, qui était donc le Caravage. Et à partir du moment où Carrage est arrivé auprès des Farnèses, il va y avoir une rivalité qui va s'instaurer et qui va donc se perpétuer, comme je l'ai indiqué au début de la précédente émission, puisque même encore maintenant, il semblerait que Caravage ait éclipsé les Carrache, tout au moins dans la réputation auprès du grand public. Alors, invité par Odoardo Farnèse, pourquoi ? Eh bien, il y a quand même des raisons à cela, c'est que Bologne est une ville qui faisait partie des États pontificaux, c'était une grande ville, très riche sur le plan économique et sur le plan artistique. Et donc, les Farnèse étaient liés pour des raisons historiques à la zone de l'Émilie-Romagne proche de Bologne, en particulier à Parme, à Plaisance. Et il y avait une sorte de lien quasi naturel entre l'Émilie-Romagne et Rome, tout au moins du point de vue artistique. Si bien que les Farnèse font appel à l'atelier des Carrache pour décorer essentiellement leur palais dont nous allons reparler. Alors en 1595, donc, Hannibal arrive à Rome et sa première visite en fait va le porter sur les pas de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Et là, malgré son aversion pour le style maniériste qu'on a déjà évoqué, il est littéralement fasciné par l'œuvre de Michel-Ange, en particulier pour son sens de la composition et pour l'utilisation de l'architecture en trompe-l'œil. C'est quelque chose qu'il n'avait probablement encore pas vu, enfin tout au moins pas de cette façon. Et il va être très marqué par le travail de Michel-Ange et notamment, il va beaucoup admirer les personnages nus que Michel-Ange a placés entre les différentes scènes qu'on appelle des ignudi et qui sont représentés au naturel, qui ne sont pas des statues en trompe-l'œil. Ça va beaucoup lui plaire et il va réutiliser le système à la galerie du Palais Farnèse. Alors cette galerie, en fait, n'est pas le premier chantier qui sera confié à l'atelier des Carrache. Ils vont travailler dans une autre pièce du palais, mais on peut peut-être revenir un petit peu sur ce palais. Le palais Farnèse est un des plus beaux, on dira même, certains disent le plus beau palais de Rome, pour l'époque de la Renaissance en tout cas c'est sûr, et par chance il se trouve que c'est l'ambassade de France. Ce qui fait dire aux Romains que les Français ont le plus beau palais de Rome, ce qui n'est pas totalement faux je pense. Alors non seulement c'est un édifice important pour la peinture, comme on va le voir, mais pour l'architecture aussi, puisqu'il a été commencé par Saint-Gallo, il a été continué par Vignole, et puis surtout Michel-Ange lui a donné une touche particulière avec sa corniche, qui est en très fort relief, et puis un certain nombre aussi d'éléments de décor qui se trouvent sur les façades ou à l'intérieur du palais. Donc un palais qui est important en quantité, si on peut dire, en volume, et également en qualité. Il est également bien placé dans le paysage. Il a une vue sur le Tibre et puis une vue sur la place, le Campo dei Fiori. Donc un lieu qui n'est pas neutre. Ceci dit, quand les Carrache sont arrivés en 1595, le palais n'était pas encore totalement terminé, puisque c'est un des disciples de Michel-Ange, Giacomo della Porta, qui a terminé le palais, comme il a travaillé aussi d'ailleurs sur le chantier de Saint-Pierre de Rome. Alors quand Hannibal arrive à Rome, donc on va lui confier le décor d'une pièce qui se trouve dans la partie terminée, bien entendu. C'est la salle que l'on va appeler le cabinet d'Hercule. Mais il faut savoir qu'avant l'atelier des Carrache, un autre artiste avait déjà travaillé dans cette zone du palais. C'était Francesco Salviati, qui avait déployé son talent pour représenter tous les faits d'armes des membres de la famille Farnèse dans la salle que l'on appelle la salle des fastes farnésiens, salle des fastes farnésiens qu'on retrouve dans tous les grands palais de la famille Farnèse, à Plaisance, à Caprarola et donc à Rome. Alors Salviati, lui, c'est un véritable artiste maniériste. On a la chance d'avoir au Louvre son Incrédulité de Saint Thomas, qui est un magnifique tableau. Il a représenté un certain nombre de scènes militaires avec on va dire une imagination assez vive, et puis une apothéose aussi du grand homme de la famille, à savoir le pape Paul III, qui est représenté sur une fausse tapisserie d'une façon tout à fait spectaculaire. Alors donc du même côté dans le palais se trouve le cabinet d'Hercule, qui a été la première pièce pour laquelle l'atelier des Carrache fut appelé donc. Et Hannibal a conçu un décor mythologique et allégorique de grande qualité. Malheureusement, le principal, la, 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 la pièce principale, donc qu'on appelle Ercole et Albivio, Hercule hésitant entre une vie courte mais trépidante et une vie éternelle mais paisible, ce tableau qui est extrêmement beau est actuellement conservé à la Galerie nationale de Naples, puisque au XVIIIe siècle, un grand nombre d'objets qui se trouvaient dans le palais sont allés rejoindre les collections des Bourbons à Naples. Cette figure d'Hercule est extrêmement belle. Là, on voit que quand même Annibal Carrache, tout en étant assez hostile, parfois une imitation servile de l'Antiquité, a très bien su rendre la figure d'Hercule héros antique. On voit que la sculpture l'a influencé et que c'est une figure qui s'impose avec une majesté tout à fait étonnante. Mais le plus beau morceau reste à venir. Nous sommes donc au Palais Farnèse, enfin terminé, avec l'atelier des Carrache. Et la grande œuvre de l'atelier des Carrache, celle qui va vraiment, on peut dire, parachever l'œuvre d'Annibal, c'est la Grande Galerie, qui est une, d'ailleurs, qui porte le nom de Galerie des Carrache, ou Galerie des Amours des Dieux. Alors c'est une très vaste pièce qui mesure 55 mètres de long, qui donne du côté du jardin et au-delà du jardin qui donne sur le Tibre, donc à l'opposé de la place où se trouvent les autres pièces peintes. C'était la partie du palais qui était la plus récemment achevée. Et cette galerie avait un usage qui était à la fois un usage de fête, mais aussi un usage peut-être de présentation de la collection, les Farnèse étant parmi les collectionneurs d'antiques les plus réputés de Rome. Ils avaient une collection qui était extrêmement abondante en qualité comme en qualité, et qui se trouve actuellement au Musée national ou au Musée de Capodimonte à Naples, puisque une grande partie de ces collections a été envoyée à Naples au moment où les Bourbons sont devenus propriétaires du palais au XVIIIe siècle. Alors il faut imaginer cette galerie évidemment comme un lieu en lui-même dédié aux fêtes, mais servant aussi d'écrin à la collection des Farnèse. Alors, le programme iconographique de cette galerie est un programme qu'on ne s'attend pas tellement à trouver dans la maison d'un cardinal, mais il avait une raison pour cela, Odoardo Farnèse. En effet, ça, il se trouve que son neveu s'est marié avec la nièce du pape. Et on espérait beaucoup que le pape viendrait au palais, il n'y est pas venu, mais on a quand même préparé tout ce programme ornemental et en même temps symbolique, en vue de ce mariage. Et comme il s'agit d'un mariage, eh bien, on a voulu traiter de sujets ayant trait à l'amour, mais à l'amour sous toutes ses formes, pas spécifiquement l'amour conjugal. On a convoqué pour cela un humaniste qui avait déjà été attaché à la famille Farnèse, Monseigneur Agucchi, qui était un homme savant, qui connaissait très bien la mythologie. Il semble aussi que le bibliothécaire du palais, Fulvio Orsini, qui était quelqu'un de très cultivé, a peut-être aussi donné quelques avis. Et donc, de cette façon, un programme iconographique qui met en scène tous les amours des dieux, tous les amours de, enfin, une grande partie des amours des dieux de l'Antiquité, a été représenté. Mais naturellement, il a fallu organiser ce décor qui se déploie sur la voûte et sur les murs. On peut dire que s'il n'y a pas de peinture, c'est qu'il y a une fenêtre ou une porte. Hein, tout est peint entièrement. Et naturellement, il s'agissait d'une entreprise vraiment très importante. Annibal a organisé tout cela. C'est lui qui a conçu l'ensemble du décor, qui comporte évidemment des scènes figurées, mais également, on peut concevoir facilement qu'il a fallu séparer toutes ces scènes par des éléments architecturaux réels ou fins. Donc dès 1597, le décor est, on peut dire, conçu. La date de 1600 en chiffres romains, bien sûr, est peinte sur l'un des petits côtés au-dessus de la porte. Et il semble qu'en 1605, l'ensemble, voûte et mur, était terminé. Alors on peut voir des scènes tout à fait, dont certaines sont très faciles à reconnaître, d'autres nécessitent une petite initiation. Il y a naturellement les scènes célèbres d'enlèvement, par exemple de Zeus qui enlève Ganymède ou qui enlève Europe. Zeus essaye aussi de se faire pardonner auprès d'Héra dans une scène qui est assez comique parce qu'il a l'air vraiment très honteux, mais en fait on sait très bien qu'il recommencera à la première occasion. Il y a également Polyphème qui occupe un petit côté, qui est un géant assez impressionnant. Mais l'ensemble est d'une grande gaieté, d'une grande, on peut dire, d'une grande allégresse, en particulier le compartiment central de la voûte, qui est le plus connu et qui représente les noces de Bacchus et Ariane, le char nuptial triomphal tiré par des tigres, avec tout un cortège d'amour et de silènes qui se déploie au devant du char. Malgré donc la gaieté de ce décor, eh bien, pourtant, tout n'allait pas toujours très bien sur le chantier. La bonne humeur ne régnait pas en continu. Augustin et Hannibal eurent des querelles. Augustin quitta même le chantier. Et puis surtout, Hannibal ne se sentait pas reconnu comme il l'aurait dû par la famille Farnèse, qui le traitait avec dédain. Enfin, c'est tout au moins ce qu'il ressentait. Et son humeur devint de plus en plus sombre. Et même à certains moments, il ne pouvait plus peindre. Il était, on peut dire, dépressif. Et on sait que, par exemple, certaines œuvres qui lui étaient commandées se sont faites attendre. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour en revenir à la galerie, il faut admirer dans cette galerie le sens de la composition absolument magistrale de Hannibal pour la conception d'ensemble, qui a réussi à combiner divers systèmes de représentation, plusieurs niveaux de perspective, qui produisent un effet dynamique, mais pas de lourdeur, on n'a pas une impression d'encombrement. En effet, il a su ménager des ouvertures vers le ciel, dans les angles de la voûte. Il a également su varier les ornements, puisque l'on rencontre des inoudis comparables à ceux de la chapelle Sixtine, on rencontre des sculptures antiques en trompe-l'œil, et puis il a mis au point un système qui sera après souvent employé à l'époque baroque, le système des quadririportati, des tableaux reportés, c'est-à-dire des tableaux en trompe-l'œil en quelque sorte, qui représentent pour la plupart souvent deux personnages, qui sont peints comme s'il s'agissait de toiles encadrées, avec un cadre doré en trompe-l'œil. Alors tout cet ensemble répond quand même très bien au projet initial qui était de montrer le triomphe de l'amour. Alors, nous retrouvons Hannibal Carrache sur les échafaudages, si on peut dire, de la voûte du palais Farnèse. Alors, il faut savoir qu'en même temps qu'il peignait, enfin, qu'il concevait, qu'il dirigeait, qu'il peignait lui-même la Grande Galerie, qui porte son nom aujourd'hui, Hannibal Carrache a reçu également des commandes privées, des commandes émanant des Farnèse d'ailleurs, et puis aussi d'autres personnes présentes à Rome à ce moment-là. Alors, je peux vous citer parallèlement donc une œuvre qui est intéressante, qui est conservée au Palais Pitti à Florence, qui n'est pas visible, enfin qui est visible, mais elle est accrochée assez haut, il faut bien la regarder, mais elle me paraît très intéressante. En fait, c'est un Christ en gloire assez jeune, qui est accompagné du portrait du cardinal Odoardo, le commanditaire de la galerie, lequel cardinal s'est fait entourer de Sainte Madeleine, qui était la sainte patronne de sa mère, qui était la princesse Madeleine de Portugal, et de Saint Édouard le Confesseur, qui était donc son propre patron, puisque Odoardo, ça veut dire Édouard ou Edward en anglais, si on veut. Son propre patron et aussi le patron des estropiés. Et ce tableau nous montre aussi le chantier de la basilique Saint-Pierre en cours d'achèvement. Donc en cours d'achèvement grâce au pape Paul III, qui était, comme je l'ai déjà indiqué, le grand héros de la famille Farnèse, avec des échafaudages sur un côté, enfin, on voit très bien que c'est la fin du chantier, achèvement donc de cette basilique Saint-Pierre, et aussi, presque placé au lieu du point de perspective du tableau, un estropié, un personnage qui n'a plus l'usage de ses jambes et qui, en ce temps-là, les prothèses étaient quand même, on peut dire, assez peu développées. Ce pauvre personnage marche avec des sortes de petits tabourets qu'il a accrochés aux mains. Et c'est assez poignant de voir le premier plan de ce tableau avec tous ces personnages prestigieux Et l'arrière-plan avec cette grande basilique, avec sa coupole, la coupole de Michel-Ange qui est magnifique. Et puis au centre, ce personnage estropié qui est là, bien sûr, pour rappeler la présence de Saint-Édouard, patron des estropiés, mais aussi pour montrer qu'en même temps que l'Église construisait des bâtiments fastueux, eh bien, elle ne devait pas oublier de s'occuper des plus pauvres et des personnes exclues de la société. Enfin, c'est tout au moins l'interprétation qu'on peut donner de ce tableau. Alors, il faut dire aussi que le portrait du cardinal Odoardo que fait Hannibal n'est pas très flatté. Odoardo n'était pas très beau, c'est le moins qu'on puisse dire. Il avait parmi ses ancêtres, du côté de sa mère, des Habsbourg. Et il avait le prognatisme habituel des Habsbourg, c'est-à-dire la mâchoire inférieure qui passait en avant de la mâchoire supérieure. Et on ne peut pas dire que ce soit particulièrement esthétique, mais Hannibal l'a bien montré tel qu'il était. Pendant qu'il était aussi à Rome, Hannibal a peint un tableau qui se trouve actuellement au Louvre, qui représente la naissance de la Vierge et qui lui avait été commandé par le duc de Modène, Cesare d'Est, qui voulait l'offrir à l'église de Lorette qui se trouve près d'Ancône. Lorette, c'est un lieu de pèlerinage important à la Vierge, c'est là où se trouve la maison de la Vierge. Alors le duc donc de Modène avait voulu commander ce tableau à Hannibal, mais Hannibal était vraiment très dépressif à ce moment-là, en 1605, et il n'a pas du tout honoré cette commande. Enfin, il a commencé le tableau et puis il l'a laissé traîner. Alors le duc envoyait des émissaires, mais il ne trouvait pas Hannibal, ou Hannibal était complètement dépressif, il n'allait pas du tout. Enfin, c'était quelque chose qui était dramatique parce que ça avait été un très grand artiste et il ne pouvait plus peindre. Et donc le tableau est resté dans l'atelier, on l'a trouvé au moment de la mort, il fait partie des objets qui ont été inventoriés dans l'inventaire après décès de l'atelier donc d'Hannibal Carrache. Alors la fin d'Hannibal a été peut-être moins spectaculaire que la fin de Caravage qui est mort sur une plage, des fièvres, alors que le bateau qui devait le ramener à Rome avait aussi embarqué tout son matériel. C'est pas une mort à la Pasolini, c'est tout de même une mort assez triste. Il a voulu voyager une dernière fois, il s'est rendu à Naples, mais finalement, revenant de Naples, il était encore tout aussi malade. Et il est mort le 15 juillet 1609. Et suivant sa volonté, il a été enterré au Panthéon de Rome, auprès de Raphaël. C'était pour lui une volonté, avec une épitaphe qui a été composée par un poète, qui montre que lui-même avait quand même une idée très importante de son art et qu'il s'était senti abandonné par les Farnèses. Il ne s'était pas senti reconnu à sa juste valeur et c'est pourquoi certainement il a eu cette dépression à la fin de sa vie qu'il n'a pas supporté d'avoir été traité différemment du traitement qu'avaient reçu Raphaël, Michel-Ange au début du XVIe siècle qui eux avaient été considérés comme de véritables héros par leurs commanditaires. Alors après sa mort, un inventaire fut dressé de son atelier et bien entendu, c'est très révélateur, on a retrouvé un certain nombre d'œuvres, dont cette fameuse naissance de la Vierge qui était destinée à Lorette et qui est actuellement au Louvre, où je vous invite à aller voir les œuvres d'Hannibal Carrache qui sont exposées, qui sont toutes de grande valeur. Et puis, donc, je vous convie aussi peut-être à vous rendre à Bologne, à la Pinacothèque, ainsi que je l'ai déjà indiqué. Et également, à Rome, il y a un certain nombre d'œuvres dans les musées que l'on peut admirer. C'est un artiste qui, je pense, ne s'est pas senti reconnu de son vivant. Il a été très, très admiré après. Il a été admiré, on peut dire, universellement. Très tôt, Louis XIV était acquéreur de ses œuvres. Enfin, il s'en est fait offrir par des cardinaux. Il a également, après, été beaucoup copié. Au XIXe siècle encore, on envoyait dans les églises de province qu'il fallait remeubler des copies de tableaux d'Hannibal Carrache. Et puis, depuis, on peut dire, les années 50 du XXe siècle à peu près, il n'y a pas eu de grande, aussi bien exposition que colloque comme on peut avoir pour d'autres artistes, bien que, comme je l'ai déjà indiqué au début, nous bénéficions de deux magnifiques catalogues qui ont été dressés pour ces peintures, par Stéphane Loire, donc, et puis pour les dessins, par le cabinet des dessins du Louvre. Et à défaut de voir les œuvres toutes d'un coup, eh bien, on peut se reporter à ces ouvrages.